Le journal est présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump va devoir communiquer certains de ses documents comptables à la justice. Ainsi vient d'en décider la Cour suprême des États-Unis. Explication et précision de Grégory Phillips dès le début de ce journal.
Le nucléaire de nouvelle génération sous la surveillance de la Cour des comptes qui met en garde le gouvernement sur des prises de décision trop rapides en faisant référence aux dérives du chantier de l'EPR de Flamanville.
Explication à suivre d'Olivier Vogel. Dans ce journal également, la publication d'un rapport sénatorial sur l'islam radical en France qu'a lu pour nous Florence Thurme. Donald Trump va devoir communiquer les documents financiers qui lui sont demandés par un procureur de New York. Cela inclut ses déclarations d'impôts. Ainsi vient tout juste d'en décider la Cour suprême des États-Unis, dans ce qui représente un vrai camouflet pour le milliardaire. Il se pose d'ailleurs en victime de poursuites politiques. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Benoît.
En direct de Washington pour France Culture, Trump est le premier président américain depuis les années 70 à refuser de publier ses déclarations d'impôts. Alors, question Grégory, dans le contexte de l'élection du 3 novembre, cette décision des neuf sages de la Cour suprême aura-t-elle des implications politiques ?
Alors, des conséquences directes, non, parce qu'il est quasi certain que ces documents, ces déclarations d'impôts sur la période 2011-2018 ne seront pas rendus publics avant plusieurs mois et certainement pas avant la présidentielle du 3 novembre. En revanche, c'est quand même une défaite symbolique et importante pour Donald Trump. Par 7-2, la Cour suprême des États-Unis a estimé que le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, était en droit de réclamer les feuilles d'impôts et d'autres documents financiers liés à la fortune du milliardaire républicain. Vous vous souvenez que la justice new-yorkaise enquête sur un versement effectué pendant la campagne électorale de 2016 à une actrice de film X, Stormy Daniels, afin qu'elle taise une relation passée avec le candidat. Cette décision est donc un camouflet pour Trump, d'autant plus que deux juges conservateurs qu'il a lui-même nommés, Gorsuch et Kavanaugh, ont voté contre lui.
Voilà, alors Grégory, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Cour suprême a nié au Congrès un droit d'accès aux archives du président dans le même temps.
Oui, parce que la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, avait fait la même requête, l'accès aux documents financiers de Trump. Mais là, en revanche, dans un autre arrêt, la Cour suprême estime que le Congrès n'a pas le droit d'aller fouiller dans les secrets bancaires et fiscaux du président en raison de la séparation des pouvoirs. Pareil, 7-2. Là, c'est une victoire et sans aucun doute un soulagement pour la Maison-Blanche. Mais vous avez raison, Trump, malgré tout, est furieux avec une salve de messages publiés sur Twitter dès que la décision de la Cour suprême a été rendue et dans laquelle il a dénoncé des persécutions politiques.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington pour France Culture. Une mise en garde de la Chine à la France. Ce jeudi, les autorités chinoises se sont émues de l'intervention hier de Jean-Yves Le Drian à propos de la situation à Hong Kong. Le ministre français des Affaires étrangères avait lui-même annoncé des mesures sans plus de précision en réaction à la politique de Pékin envers Hong Kong, ce qui a agacé la Chine, bien sûr. Élise Delève.
Les affaires de Hong Kong relèvent des affaires intérieures de la Chine. Aucun pays n'a le droit de s'en mêler. Devant la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise se montre ce jeudi agacé. Il appelle certains pays à faire preuve de prudence en paroles comme en actions. Certains pays, sous-entendu la France. Hier, Jean-Yves Le Drian avait annoncé devant la commission des affaires étrangères du Sénat des mesures contre Pékin. Propos qu'il réitère cet après-midi malgré l'agacement de la Chine. Lors d'une rencontre avec son homologue espagnol, Jean-Yves Le Drian considère que cette loi sur la sécurité
est un acte très grave qui remet en cause de notre point de vue à la fois la loi fondamentale de 1997 qui validait la forme d'autonomie du Hong Kong sous la référence un pays deux systèmes et par ailleurs nos propres ressortissants peuvent eux-mêmes être victimes de ces nouvelles dispositions. Et donc nous aurons l'occasion de reparler de cette question au sein de l'Union européenne lundi prochain avec l'ensemble de nos collègues des affaires étrangères.
Pour l'instant, la réponse européenne a été mesurée. Cette loi sur la sécurité nationale vise à réprimer, selon Pékin, la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les pays étrangers. Elle marque le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession, car elle met en péril les libertés du territoire.
Élise Delève.
Lors d'un point de presse ce matin, le commandant de la force Barkhane au Sahel, le général Pascal Facon, a confirmé les avancées des militaires français et sahéliens au sein du G5 Sahel.
Des résultats à mettre sur le compte, notamment d'une meilleure coordination entre armées, mais il faut rester prudent, car selon Pascal Facon, l'ennemi s'est endurci et recrute désormais des enfants soldats. pas, ce qui représente une préoccupation majeure pour la force Barkhane. Et c'est également une situation qui pose question. Nathalie Armandez.
Dès l'an dernier, les Nations Unies avaient alerté sur la présence d'enfants embrigadés au sein de groupes armés, en particulier au nord du Mali. En 8 ans, 159 cas d'enfants soldats ont été répertoriés par l'ONU. Aujourd'hui, c'est l'armée française qui s'alarme de ces enrôlements, comme en témoigne le commandant de la force Barkhane, le général Pascal Facon, en poste depuis 1 an.
Moi, ce que j'ai pu observer c'est au cours de ce mandat, c'est que l'ennemi s'est durci. Il n'hésite plus à recourir à des enfants soldats, endoctrinés et entraînés au maniement des armes. Il s'agit d'une préoccupation très importante pour la force. Bien évidemment, la robustesse de nos procédures d'engagement nous permet de nous prémunir quasi systématiquement de dommages collatéraux. Pour autant, il arrive que l'on constate lors des opérations de neutralisation la présence de mineurs. Ces situations demeurent extrêmement rares. Mais il convient d'en avoir une pleine conscience.
Le général Facon ne donnera pas d'autres précisions sur le nombre d'enfants, ni dans quelle faction terroriste ils se retrouvent, s'il s'agit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Quand le commandant de Barkhane évoque des opérations de neutralisation, cela signifie mettre hors de combat un ennemi. Il est soit capturé, soit tué. Qu'en a-t-il été lors de ses missions quand il parle de mineurs présents de façon exceptionnelle? Ont-ils été capturés? Ont-ils été retrouvés sans vie? Nous n'en saurons pas plus. Le général Facon assure que dans ces cas-là, il y a systématiquement l'ouverture d'une enquête. Là encore, aucun autre détail n'a été apporté.
En France, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération continuent à poser problème et suscitent bien des questions aussi bien technologiques que financières. Bonsoir Olivier Vogel.
Bonsoir.
C'est ce que vient de rappeler la Cour des comptes qui, en faisant d'ailleurs référence aux dérives du chantier de l'EPR de Flamanville, appelle le gouvernement à la plus grande vigilance avant de lancer d'autres constructions de nucléaires de nouvelle génération.
Oui, c'est la chronique d'une dérive, selon ses propres termes, que la Cour des comptes a détaillé ce matin, celle du fiasco de l'EPR de Flamanville 3, un réacteur qui ne doit être mis en service que dans 3 ans, alors qu'il aurait dû être achevé il y a 11 ans déjà. Quant à la facture, elle était multipliée par plus de 3 pour arriver aujourd'hui à 12,4 milliards d'euros au moment du démarrage. On devrait même atteindre les 19 milliards. Et ces dérives ont également été observées en Finlande et au Royaume-Uni, où des EPR français sont également en chantier, ou encore en Chine, où 2 réacteurs similaires sont en service depuis peu. Dans ces conditions, parler de la construction de nouveaux EPR en France, c'est un peu prématuré pour Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes.
Une grande partie de notre parc nucléaire, la totalité en réalité, arrive à échéance de 60 ans dans les années 2040-2045. Si on décide de lancer une nouvelle génération de réacteurs, c'est le 22e siècle qui se prépare. Et donc il faut faire ses choix de manière extrêmement éclairée sur le plan technologique, sur le plan financier et sur le plan politique.
D'autant qu'EDF et l'État imaginent déjà la suite de Flamanville 3. Alix Mazouni est chargée de campagne énergie chez Greenpeace France.
Ce qui est gênant, c'est qu'on observe qu'aujourd'hui, EDF, l'État, sont en train de proposer de nouveau des chiffrages irréalistes, puisqu'ils prétendent pouvoir diviser les coûts par 3 à l'avenir si on devait construire une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Ces hypothèses sont complètement irréalistes quand on voit l'état de fait en France, en Finlande, en Chine et au Royaume-Uni.
Et pour Greenpeace, ce rapport de la Cour des comptes est évidemment un joli plaidoyer en faveur de la sortie du nucléaire.
Merci Olivier Vogel. Alstom se dit prêt aujourd'hui à céder une de ses usines en France, en Alsace, et à se séparer de compétences dans la filière train. Une série de concessions annoncées pour tenter de convaincre la Commission européenne de mettre la main sur son concurrent canadien Bombardier Transport pour créer un géant mondial capable de rivaliser avec le numéro 1 dans le secteur, le chinois CRRC. Écoutez la réaction de Patrick Descara, délégué CFDT à Alstom.
Les décisions sont peut-être à l'heure actuelle un peu obsolète vu le contexte mondial. On nous avait présenté en fait cette opération pour le fait que Alstom soit un concurrent mondial par rapport au mastodonte chinois qui est CRRCC. Et là, donc, on nous ampute une partie de notre compétence, notamment sur les trains régionaux. Donc, en fait, on comprend pas. On ne sait pas quel va être le repreneur, si tant est que le processus est validé, est-ce que ce sera un repreneur espagnol, est-ce que ce sera un repreneur allemand, voire est-ce que ce sera un repreneur chinois. Donc il y a beaucoup de risques, mais le mieux en fait aurait été de garder le périmètre d'Alstom tel qu'il était, si vous voulez. Nous, on avait effectivement une composition par établissement qui répondait à chaque fois à un besoin spécifique sur le site du ferroviaire, notamment le site de Reichshoffen était spécialisé et avait une bonne compétence sur les trains régionaux, sur les trains de banlieue, voire sur le futur, les trains à hydrogène, a priori. Donc on a 2 mois pour se prononcer, mais actuellement, on n'approuve pas du tout cette décision qui serait imposée par la Commission européenne pour valider, en fait, ce rachat de Bombardier.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi.
Interdire des prédicateurs et discours séparatistes, mieux surveiller certaines écoles, associations ou clubs et sensibiliser les élus et éducateurs.
Un rapport sénatorial publié aujourd'hui propose une quarantaine de mesures comme celles que vous venez d'égrener, Emmanuel, pour juguler une radicalisation islamiste en France. Une radicalisation que ce rapport juge de plus en plus menaçante et les réponses apportées par les autorités publiques ne sont pas toujours suffisantes, souligne ce rapport que Florence Turm a consulté pour nous.
8 mois de travaux que la Covid-19 a réduit à de simples auditions, mais un rapport qui se veut novateur, différent des nombreuses productions déjà réalisées sur le thème de la radicalisation. Ici, il est question d'islam politique, et les sénateurs assument la sémantique, avec un constat très préoccupant dressé par la rapporteure Jacqueline Eustache-Brigno, sénatrice LR du Val-d'Oise.
On est là au pied du mur sur ce sujet, parce qu'il y a quelques années, il y avait quelques demandes dans les écoles, on voit bien que ça dépasse les écoles, on voit bien que ça dépasse le sport, alors qu'avant il n'y avait pas de demande. Alors, avec une minorité, mais une minorité visible, qui fait des pressions sur les gens, à la limite, les plus faibles et les plus un peu éloignés. Et c'est ça qui est inquiétant. Nous allons avoir des pans entiers de notre territoire qui vont sortir de la République, qui sont dans un écosystème, et on va isoler une partie de la population qu'on va laisser au sein de normes religieuses. C'est juste pas possible dans un pays laïque comme le nôtre.
Au-delà du constat, la commission d'enquête a émis 44 propositions avec l'objectif premier de protéger la jeunesse de tout entrisme politique. Elle estime que le champ sportif en particulier doit échapper aux pressions et la ministre des Sports, auditionnée par les sénateurs, ne leur a pas semblé suffisamment consciente du problème. Ils préconisent par ailleurs de renforcer le renseignement territorial, former les agents, mais aussi actualiser la police des cultes, un outil selon eux tombé en désuétude, et de judiciariser, autrement dit, condamner systématiquement les appels à la haine et les atteintes à la liberté de conscience.
Florence Turm, le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et contre l'hyper-cacher qui se tiendra en septembre à Paris, ce procès sera filmé, ce sera une première en France pour un procès sur des faits de terrorisme, décision prise par la Cour d'appel de Paris qui a autorisé cette captation vidéo pour la constitution d'archives historiques de la justice. Créée en 2013 après l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique a rendu son bilan ce matin pour l'année 2019. Chargée de la collecte et du contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts de près de 15 000 responsables publics, ministres, élus et hauts fonctionnaires, l'autorité indépendante a transmis à la justice 23 dossiers l'an passé. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Cette présentation a aussi permis à son nouveau président Didier Migaud, nommé en janvier dernier par Emmanuel Macron, de réaffirmer l'importance de la haute autorité face aux attaques émises par le passé, par exemple par le pénaliste et désormais ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti.
Oui, pour Éric Dupond-Moretti, c'est la notion même de transparence qui peut poser problème. La volonté effrénée de transparence peut conduire à la dictature, avait-il dit au moment de l'affaire Griveaux en février dernier. Mais plus précisément, sur la haute autorité dans l'émission C'est à vous, en 2014, c'était avec une petite once de mépris qu'il avait parlé de cette instance, à l'époque toute nouvelle, et qui venait d'épingler l'un de ses clients.
Je connais les exigences de cette haute
autorité
pour la transparence de la vie politique, autorité pour la transpercance de la vie politique, voilà, parce que vous allez voir la multiplication d'affaires à venir. Hein. Bon.
En 2015, Éric Dupond-Moretti va plus loin. Il parle, je cite, d'un espèce de truc populiste à l'occasion du procès d'une autre de ses clientes, l'ancienne ministre Yamina Benguigui, elle aussi rattrapée par la HATVP. Tout cela mis bout à bout, eh bien, ça fait beaucoup pour Didier Migaud, son président.
Ce sont des propos presque infamants pour la haute autorité. Donc j'espère le convaincre que ces propos d'alors étaient tout à fait injustifiés. La transparence n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen très important pour contribuer à la confiance entre les responsables publics et les citoyens. Et on voit que dans un pays comme le nôtre, il y a quelques marges de progrès pour faire en sorte que cette confiance soit confortée.
Et parmi les marges de progrès, Didier Migaud revendique un droit de communication plus large, limité actuellement au ministère de l'Économie et des Finances. Il souhaite pouvoir s'adresser par exemple directement auprès des banques. Et puis la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique demande un pouvoir de sanction propre, comprenant notamment des amendes, car tous les manquements des élus ne relèvent pas du pénal.
Merci Anne Fauquemberg. L'Académie des Césars vient d'adopter la parité intégrale dans ses instances dirigeantes, mesure prise notamment après les remous causés par la distinction lors de la dernière série. Cérémonie de Roman Polanski. Les 4300 membres de l'Académie seront désormais hommes et femmes à égalité. Et les 46 membres du conseil d'administration des Césars, instance également paritaire, seront élus et non plus désignés par cooptation. Une journée toujours chaude demain, marquée par le retour des nuages sur l'ensemble des régions. Quelques averses seront possibles sur le massif central et des orages attendus sur le Lyonnais et les Alpes. Retour du soleil dès samedi.